Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Des projets solidaires partagés, des créations originales qui autour de nous enrichissent notre présent, mais aussi des rencontres inattendues qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes. C'est ici et maintenant, rendez-vous compte.
Non moins furtif que l'aube aventurière, non moins silencieux que le miroir, tu passes et je pense apercevoir sous la lune équivoque une panthère. Par quelque obscur et souverain décret, nous te cherchons. Nous voulons, fauve étrange, plus lointain qu'un couchant ou que le Gange, forcer ta solitude et ton secret.
Aujourd'hui, avec ce poème de José Luis Borges, dédié au chat, nous allons poursuivre notre conversation commencée la semaine dernière avec Bernard Vercruis, peintre dit « naïf », entre guillemets, spécialisé dans la mise en scène de ses « modèles préférés », nos chers félins domestiques. Monsieur Vercruis m'a reçu chez lui, à Auvers-sur-Oise, dans sa maison qui voisine celle du fameux docteur Gachet, médecin, peintre, collectionneur d'art, qui connut bien Vincent Van Gogh, à Auvers, durant les 70 derniers jours de la vie de Vincent, en 1890. L'émission de la semaine dernière est bien entendu disponible en podcast sur le site d'IDFM Radio. Nous avons vu que M. Vercruis a mis en scène les chats qui ont accompagné sa vie depuis toujours pour rendre hommage à sa ville, Auvers, mais aussi à des artistes comme Chagall ou Chopin, des acteurs de la modernité industrielle comme Gustave Eiffel ou Hector Guimard, l'architecte de l'Art Nouveau. Militant par ses toiles pour la liberté et l'égalité due aux femmes, il prouve qu'être naïf, entre guillemets, en peinture, ne signifie aucunement être naïf dans sa vision du monde, comme nous allons le voir maintenant. Alors vous abordez également les problèmes les plus contemporains, réchauffement climatique, conditions animales et laïcité même.
Oui, alors c'est extrêmement important. On va commencer par le début. Je veux dire que c'est vrai, j'ai fait un tableau sur l'Arctique, en représentant les animaux de l'Arctique, du moins ceux qui sont vivants actuellement, en montrant que ces animaux risquent de disparaître, bien entendu. Alors j'ai fait un tag sur une glace qui s'appelle Arctique, et cette glace va fondre. Et le tag va disparaître, bien sûr, parce que l'être humain, lui, va aussi disparaître. Mais en même temps que les animaux, il en restera peut-être quelques-uns, c'est tout. Bon, ça, c'est le côté... C'est pour prévenir, quoi. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis, j'en ai fait un autre sur Circus, où on voit un défilé d'animaux, un singe avec un petit chapeau, l'éléphant avec produit à ongles sur ses ongles, un ours qui fait du vélo avec une jupette. Enfin, les animaux ne sont pas faits pour être dans un cirque. On crée de la souffrance animale pour faire plaisir à des enfants qui vont voir pendant une heure ces animaux gesticuler, et pendant 23 heures, les animaux vont être enfermés dans une cage. Et comme ils font le tour de France, ils restent dans les cages, et comme ça ne s'arrête qu'à la retraite, lorsqu'ils arrivent à avoir une retraite, ils sont trop vieux pour apprécier malheureusement le pré dans lequel ils vont finir leur vie. Je suis, bien sûr, vous avez compris, contre les animaux de cirque, parce que ça engendre vraiment trop de souffrance par rapport à ça.
Et là, c'est une prise de conscience quand même de plus en plus effective, puisque de nombreuses municipalités refusent maintenant l'installation de cirque. Voilà, c'est encore une cause qui doit progresser.
Chat petit fauve, dieu des alcôves, dieu des greniers, vrai tueur né, royale bête, enfant poète. Nuage chaud, au frais museau, pierre précieuse, fleur amoureuse, viens dans mes bras, caresse-moi. Chat, doux démon, dragon, mignon, athlète.
Et la laïcité, vous savez, la laïcité, c'est la chose peut-être la plus importante que nous avons. Nous avons cette chance-là. Et si la laïcité a actuellement du mal à être comprise, c'est parce qu'elle est naturellement mal expliquée, mais c'est la seule arme, vraiment efficace contre l'intolérance et les vrais problèmes qu'il y a actuellement. Nous avons cette chance d'avoir cette arme-là, qui est une arme, je dirais, elle n'est pas violente, puisque c'est une arme de tolérance, puisque c'est l'acceptation, par exemple, si on parle des religions, c'est l'acceptation de toutes les religions, mais sans aucune suprématie de l'une sur les autres. Et c'est le respect de toutes les religions. Ce n'est pas l'interdiction des religions, c'est l'acceptation des religions, mais sans que l'une prévale une autre.
Voilà, il y a condition que ces religions respectent aussi les lois de la République.
Et surtout que de respecter les lois de la République.
Voilà. La musique occupe également une place importante dans votre œuvre. Je pense par exemple à une œuvre qui s'appelle Le Violoniste, qui rappelle un peu Chagall, on pourrait dire. Un peu comme La Marchande de Ballons d'ailleurs. Il y a un peu du Chagall, non ?
Ah ben, là, c'est tout à fait mes débuts, et c'est tout à fait ça, en fait. C'est, là, on remonte dans les années 70, 71, hein, je ne sais plus. Mais oui, j'ai été très, très impressionné par Chagall. Plus tard, j'ai été inspiré par Paul Delvaux, Magritte. Mais Chagall, c'est vraiment un artiste qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance. Et ensuite, lorsqu'on aime quelqu'un, je ne veux pas dire qu'on le reproduit, mais on est inspiré par. Hein, voilà.
Alors, il y a également une très belle œuvre que j'aime beaucoup qui s'appelle « La musique adoucit les mœurs » et qui m'a fait penser un petit peu à « La dame à la licorne ».
Ah, je n'avais pas pensé à ça, par contre.
Avec des fleurs qui ressemblent à des fleurs de lys, une ambiance un petit peu feutrée, un petit peu mystérieuse.
Oui, voilà. Oui, là, et c'est un chien qui joue de la contrebasse. Hein, et les chats sont autour pour écouter la musique. Et là, c'est le chien est au service du chat. Oui.
On continue à rendre hommage en musique à nos amis félins. Alors, après la valse du chat de Chopin, l'incontournable duo des chats, faussement attribué généralement à Rossini, une composition très populaire, souvent interprétée en bis à la fin d'un concert. Je parlais de symboles, mais que seuls parfois des initiés peuvent reconnaître. Je pense par exemple à une œuvre qui s'appelle Le chat d'Iram, ou bien Les chats en majesté. Est-ce qu'il y a des symboles comme ça cachés ?
Alors, totalement, oui. Cherchez-les.
Voilà. Il y a aussi une œuvre qui s'appelle Mes chats sous la verrière du Grand Palais, une journée particulière, donc voilà.
Oui, tout à fait. Alors, les chats sous la verrière du Grand Palais, il y a 13 chats, c'était les 13 chats de ma vie, enfin de la vie avec mon épouse. Donc, ce tableau, normalement, est dans mon salon. Bon, là, actuellement, il est exposé à Metz. Depuis, on en a eu un nouveau, donc il va falloir que je le rajoute dans un coin. Nous avons un 14e chat.
Alors, une des œuvres que j'aime particulièrement, c'est l'Arche de Noé.
Ah oui, l'Arche de Noé, c'est un amusement. C'est après le déluge, et donc les animaux sont rentrés par deux, et moi je les fais ressortir, et ils ressortent à trois. Ils ont eu le temps de vivre leur vie pour pouvoir sortir.
Ton dos veut bien prolonger ma caresse. Il est écrit dans ton éternité que s'accorde à ta frileuse paresse ma main et son amour inquiété. Ton temps échappe à la mesure humaine, clos comme un rêve est ton domaine.
Alors, M. Monsieur Vercruis, la reconnaissance mondiale de votre talent est soulignée par la présence de vos œuvres qui sont ou ont été exposées dans plus de 30 musées français et étrangers. Vous pouvez nous en citer quelques-uns de mémoire ?
Oui, bien sûr, celui dont je suis le plus reconnaissant, c'est le musée Anatole Jakovsky à Nice. J'ai donné une partie, toute ma série de gravures. Il y en avait donc dans les 300 gravures, et puis des aquarelles, des huiles. Faut savoir que le musée Anatole Jakovsky a été donc créé par la collection d'Anatole Jakovsky, qui était un critique d'art et qui s'intéressait beaucoup aux naïfs. Et c'est lui qui m'a, je dirais, épaulé, conseillé dans la vie. J'ai eu la chance, vraiment la chance, d'être son ami. Et nous avons fait un parcours ensemble. Voilà. Et on avait fait un livre de gravure ensemble qui n'a pas trouvé d'éditeur. Et tout à fait récemment, mais vraiment récemment, je veux dire, c'est cette année, je parle en 2023, il y a une association qui s'appelle La Sirène et qui a édité enfin ce livre. C'est vraiment un bel hommage qu'on lui fait, je trouve. Et puis donc d'autres musées, celui de Reims, parce que je suis né à Reims, donc ça me touche beaucoup. Et puis il y a le musée Saint-Pierre à Montmartre. Voilà. Et puis il y en a d'autres au Canada, aux États-Unis. Enfin bon.
En Suède
aussi.
En Bulgarie, à Amsterdam, en Lituanie, à Lausanne, en Suisse, etc. Donc voilà, une belle consécration.
Oui, Amsterdam, c'est un musée du chat. C'est un des tout premiers musées du chat qui a été créé. Et c'est un très, très chouette musée que je conseille aux gens, s'ils vont se promener à Amsterdam, d'aller voir ce musée qui est juste le long d'un canal. C'est très beau.
Vous avez réalisé aussi l'affiche de plusieurs festivals ou salons.
Oui, c'est le festival Art Nature, je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai fait pendant plusieurs années, dont la présidente était vraiment une personne très extrêmement compétente et qui m'a permis de travailler librement. J'ai beaucoup de reconnaissance pour cette dame.
Et une affiche aussi d'un festival qui avait lieu au Colorado.
Ah oui, ça a duré 19 ans. 19 ans, j'ai fait l'affiche de ce festival de musique avec les cartons d'invitation, et ils ont transformé aussi l'affiche sur des t-shirts. Ça avait un côté vraiment
américain.
Oui, très américain, très américain. Mais voilà, ils m'ont proposé plusieurs fois de venir. Et moi, je ne suis pas très voyage, et je voyage dans ma tête. J'ai pas ce besoin, si vous voulez, de voyager. Je ne suis pas un grand voyageur, quoi. Mais uniquement dans mes rêves.
Vous avez aussi des distinctions honorifiques. Membre d'honneur du Salon National des Beaux-Arts. Chef de file de la section d'art naïf du Salon Comparaison au Grand Palais.
Ça, c'est pas un honneur, c'est un plaisir, et c'est surtout du travail, hein, c'est parce que il faut s'occuper, c'est vraiment organiser le groupe, retrouver des artistes, les briefer pour qu'ils puissent rentrer dans le groupe et pouvoir exposer au Grand Palais, etc. Donc là, c'est vraiment extrêmement passionnant à faire, et je le fais avec beaucoup de plaisir.
Chaque fois que j'ai affaire aux souris, j'ai envie de donner ma langue au chat. Les souris, vous le savez, je les chéris, je les adore, mais dès que j'avance la patte, 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 patatras. La dernière en date qui m'est sourie, elle était rose comme la fleur du péché. Aussi sec j'y vais de mon pot pourri, miaou, j'y ronronne un couplet bien toussé. Patte, 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 pas tricher.
On l'a vu en parcourant votre œuvre, naïf en peinture ne signifie pas pour autant naïf par rapport à votre art, et plus généralement par rapport au monde. D'ailleurs, dans le carton présentant votre exposition qui vient de s'achever à Mers-les-Bains, comme une jumelée avec le Tréport, vous retrouvez les accents d'un Baudelaire qui parlait dans son poème « Le reniement de Saint-Pierre », je cite, « d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve ». Monsieur Vercruis, pourquoi peignez-vous finalement ?
Il n'y a pas la même réponse suivant les époques. Au départ, lorsque l'on est jeune, ça rentre dans une dynamique. On est un peu fonceur, on va vraiment de l'avant. Donc on est créateur parce que l'on en a besoin. On répond à une nécessité basiquement humaine, je dirais presque bestiale, non contrôlable. Avec les années et au fil du temps, on a un moment de transition où on se pose peut-être la question, mais pourquoi je continue à peindre, ça me sert à quoi? Et ce palier, je dirais, permet une certaine réflexion sur la vie, sur le besoin de peindre encore dans votre vie. Et puis vous avez après, je dirais, une autre réponse qui arrive, qui est celle de maintenant, qui est de donner un sens vraiment à sa propre vie et peut-être même à celle des gens qui vous entourent. Parce que quand vous voyez que votre travail emmène un sourire sur le visage d'un enfant, lorsque vous voyez que ça rend heureux, et vous vous dites des choses aussi inutiles qu'une peinture, paraît d'un seul coup utile à quelqu'un. Simplement, quand vous constatez ça, vous vous donnez cette excuse de dire, en fin de compte, on n'est peut-être pas si inutile que ça. Donc, pour cette raison-là, d'emmener un sourire chez un enfant, je continuerai encore à peindre le plus longtemps que je pourrai.
La patte du chat. Le soir, comme il rentrait des champs, les parents trouvent le chat sur la margelle du puits où il était occupé à faire sa toilette.
Allons, voilà le chat qui passe sa patte par-dessus son oreille.
Et il va encore pleuvoir demain.
Et en effet, le lendemain, la pluie tomba toute la journée. Il ne fallait pas penser à aller au champ. Fâchés de ne pouvoir mettre le nez dehors, les parents étaient de mauvaise humeur et peu patients avec leurs deux filles. Delphine, l'aînée, et Marinette, la plus blonde, jouaient dans la cuisine à pigeon vol, aux osselets, aux pendus, à la poupée et à l'ouilletu.
Ah, toujours jouer, toujours s'amuser.
Des grandes filles comme ça. Ah, vous verrez, quand elles auront 10 ans, elles joueront encore.
Au lieu de s'occuper à un ouvrage de couture ou d'écrire à leur oncle Alfred.
Ça serait pourtant bien plus utile.
Quand ils en avaient fini avec les petites, les parents s'en prenaient au chat, qui, assis sur la fenêtre, regardait pleuvoir.
C'est comme celui-là. Il n'en fait pas lourd non plus dans la journée.
Il manque pourtant pas de souris qui trottent de la cave au grenier.
Oh, mais monsieur aime mieux se laisser nourrir à ne rien faire.
Ouais, c'est moins fatigant.
Monsieur Vercruis, pour terminer, où peut-on voir vos œuvres ?
Alors, donc, actuellement à Mers-les-Bains, jusqu'au 7 janvier. Et puis, après, ben, chez moi, dans mon atelier.
Voilà. À Auvers-sur-Oise.
À Auvers-sur-Oise.
Rue du docteur Gachet.
Voilà, je suis le voisin du docteur Gachet.
Et sur votre site internet aussi ?
Sur le site vercruis.com.
Voilà, et sur Google, on trouve beaucoup de choses, trouve vos œuvres.
Voilà, vous trouvez le site.
Il me reste à vous remercier profondément.
C'est moi qui vous remercie, avec plaisir.
Vous êtes toujours bien sur IDFM Radio à l'écoute de ce rendez-vous conte consacré au peintre animalier, Bernard Vercruis, qui m'a reçu à son domicile et à son atelier d'Auvers-sur-Oise, pour me parler de ses sujets favoris, les chats. Quant à l'atelier de Bernard Vercruis, il était pratiquement vide au moment de cette rencontre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à la fin du mois de décembre, la plupart de ses œuvres étaient alors exposées à la médiathèque de Mers-les-Bains, ville sœur et jumelée avec le Tréport en Seine-Maritime, à un peu plus de 2 heures de route de Paris. Une exposition qui s'est achevée le 7 janvier et que m'a présentée Madame Cherlin, du service culturel de Mers, responsable de cette expo. Donc, Madame Gerlin, j'aimerais savoir d'où vous est venue l'idée de cette exposition de Bernard Vercruis.
En vérité, on a la chance d'avoir un service culturel et une médiathèque avec un bel espace de galerie pour ouvrir les portes à la culture pour tous. Et donc, c'est Jean-Gabriel Rollery, l'adjoint à la culture, qui m'a demandé de chercher de l'art naïf, car il nous en manquait dans les propositions qu'on avait. Il se trouve qu'on a de la chance parce que de plus en plus d'artistes sont intéressés pour être exposés chez nous, de grande qualité. Et on a exposé Dan Jacobson, qui est aussi le chef de lance du maxi-réalisme. On est devenus très amis et c'est Bernard Vercruis qui est venu voir les œuvres de Dan Jacobson, qui tout d'un coup m'a présenté son livre et j'ai vu la qualité, puisque lui-même, il est vraiment chef aussi de liste de l'art naïf en France. Et on s'est très bien entendu et ça a été l'occasion de mettre ça en place. Donc il y a plus d'un an maintenant, hein, le temps de se rencontrer, d'envisager les dates, de l'organisation. Et c'est comme ça qu'on a la chance de pouvoir recevoir les œuvres de Bernard Vercruis.
Alors, quelle conception avez-vous imaginé ? Est-ce qu'il y a un fil conducteur, une mise en scène, une scénographie, comme on dit ?
Oui, et ça vient... alors, ça dépend comment ça se passe. Mais là, entre autres, avec Bernard, il avait déjà une idée très, très... il avait déjà bien travaillé en amont sur l'espace qu'on lui offrait. Donc, il a une grosse habitude aussi. Donc, c'est vrai que ça a été d'autant plus facile de mettre en valeur... C'est vrai qu'on s'est concentré sur les chats, donc c'est quand même sa spécialité. Donc on a commencé par tous les chats, tous ces chats à lui qu'il a représentés donc sur un mur, donc ça a concentré ça. Et puis ben, les chats qui partent au bout du monde et toutes ces toiles qui représentent les chats dans différents pays, dans différents endroits. Et puis aussi du coup un petit coin... où il mélange tout d'un coup le graphe et l'art naïf, donc c'est très intéressant. Et on a essayé de grouper tout ça, faire un coin juste des aquarelles et puis un coin où ce n'est que des gravures, par exemple. Voilà. Donc on a géré les espaces dans cet esprit-là, où il y a toute une histoire voilà, qui peut se raconter, où je peux guider les uns et les autres voilà, quand ils viennent.
Il faut ajouter que nombre de ces tableaux sont accompagnés d'un petit carton explicatif très très intéressant qui permettent de comprendre. Ce ne sont pas simplement des chats, non. C'est un petit peu le monde qui est raconté, l'histoire, la modernité, le futur parfois un petit peu inquiétant.
Oui, oui, exactement. Du futur ou du passé. Là, son tableau du renard Père Noël est très, très, très fort, en fait, hein, sur les masques que l'on porte. Et la désillusion de l'enfance, c'est très, très marquant. C'est ça qui est intéressant dans son art, dans sa poésie et dans son regard. Et il y met aussi de l'humour, heureusement. Il y a plusieurs niveaux de lecture, effectivement. Et on a les moyens, et il nous donne les moyens de les développer, de les expérimenter en fonction des questions des uns et des autres.
Ouais. Alors, effectivement, cette toile où on voit le Père Noël et la désillusion de l'enfance, comme il l'explique très bien, en fait, on l'a vu dans notre première émission, ça renvoie un petit peu aux critiques que pouvait formuler l'Église à l'époque, dans les années 50, qui a brûlé le Père Noël en effigie. Et ça reprend aussi les explications de certains psychiatres qui dénonçaient justement le mensonge fait aux enfants et la perte de confiance après envers les adultes. Donc, dans ce tableau qui est largement autobiographique, on va dire, ça reprend un petit peu ça, quoi. Voilà, surtout dans cette période de Noël, donc bien choisi.
Chat fait rien, c'est qu'un gros feignant, un gros pacha, un charlatan. Quand on l'appelle, chat répond pas, n'en fait qu'à sa tête à chaque fois.
Quelles sont les réactions du public ?
Très enthousiaste. Alors, c'est, comme vous dites, il y a différents niveaux de lecture. C'est-à-dire, les enfants sont fascinés, absolument. Et ils posent plein de questions, ils retrouvent leur propre chat, ils cherchent à compter le nombre de chats, et puis... ils n'en reviennent pas que ça soit peint. C'est-à-dire que là, du coup, même sur la technique, on peut vraiment développer des choses parce que pour eux, ce n'est pas possible que ce soit peint, tellement c'est précis, tellement c'est fait. Ensuite, on a les amoureux des animaux qui viennent avec justement cet esprit naïf, hein, qui ne sont pas spécialement attirés par la peinture, mais du coup, ça les fascine. Et puis, petit à petit, justement, ils développent leur intérêt et ils découvrent effectivement les différents niveaux de lecture. Et puis, il y a les connaisseurs, hein, qui apprécient très fortement la précision, la finesse des traits, la profondeur. Voilà, où on compare au douanier Rousseau. Où, voilà, forcément, il y a des références qui sortent vraiment en règle. règle générale, cette exposition a créé l'enthousiasme. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde, il y a encore beaucoup de monde. On n'a pas fait beaucoup de ventes parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à vendre, dans le sens où c'est déjà des œuvres de collections privées ou de musées. Mais les livres, les cartes postales, les lithographies partent. Oui, oui, les gens sont très enthousiastes. Cette période aussi des fêtes, c'est vrai que c'est intéressant, c'est-à-dire que ça attire l'œil et c'est joyeux. Et donc, les gens arrivent légers et sont attirés par cette légèreté, et c'est ce qu'on voulait. Mais après, rien n'empêche d'aller vers plus de profondeur.
On est si à moindre de père en fils. On est si à moindre qu'on se la dise. On va vivre ensemble sous le même toit. Car ce qui est à toi est aussi à moi.
Vous êtes en train de préparer la nuit de la lecture. Vous pouvez nous donner votre programme qui m'a l'air très très riche.
Écoutez, puisque cette année, le thème national, c'est sur le corps, on a réfléchi tous ensemble entre nos bénévoles et puis nos artistes, parce que petit à petit, on connaît de plus en plus d'artistes, forcément, et de plus en plus d'artistes viennent vivre ici. Pour nous, il n'y a pas de séparation entre le corps, l'esprit et la spiritualité, et que tout doit faire sens, et un tout. Si bien que on va créer un buffet de lecture où tout le monde pourra aller piocher dans différents espaces avec un mélange de réflexologie ou comment apprendre à lire son corps, avec un espace artistique, avec de la création en direct suivie d'une lecture d'un texte qui a été écrit sur le travail d'une de nos artistes. Après, il va y avoir un autre artiste, enfin, il y en a plusieurs, qui écrivent eux-mêmes leurs poèmes, et donc en lien avec leur création, ils diront leurs poèmes. Et il y aura aussi un spécialiste des arts martiaux qui nous fera une démonstration de sabre, toujours accompagné de lectures choisies en fonction. Donc lui, c'est un spécialiste du zen, donc alors toujours un lecteur bénévole, voilà, on aura des comédiens de théâtre qui viendront s'y mettre en espace, comment on dit des mots en bougeant son corps. Et puis, il y aura aussi des projections de chorégraphies connues, parce qu'il faudra se détendre. Et tout ça, on pioche, on vient quand on veut, on passe, on prend. Et puis, ça passera comme ça par petits espaces, avec un buffet et un verre, parce qu'il faut savoir aussi, justement, nourrir son corps. Et voilà, c'est l'esprit à partir de 19h et jusqu'au bout de la nuit, puisque c'est la nuit de la lecture. Donc, ce sera à la médiathèque, à l'espace Prévert, le 20 janvier, le samedi 20 janvier.
À Mers-les-Bains, bien entendu. Mais comment on prépare une telle nuit? Enfin, ça doit être un travail à long terme. Comment vous avez pensé, prévu, programmé?
Déjà, on s'est mis d'accord avec, effectivement, l'adjoint à la culture qui est très présent, encore une fois, et on a de la chance pour ça, et la chef de service Magali Dufrien, de l'idée qu'on pourrait imaginer, en fonction aussi des gens qu'on avait autour de nous. Une fois qu'on a eu l'idée, ben, on est allé demander aux uns et aux autres s'ils voulaient bien participer. Le retour a été assez enthousiaste. On a de la chance d'avoir des artistes très généreux et des bénévoles très investis, ce qui aide beaucoup. Et puis, c'est vrai que là, étant donc moi, je suis artiste moi-même, enfin, j'étais comédienne et que je connais la mise en scène, en fait, on donne un peu le bébé, encore une fois, de l'organisation pour faire des réunions, des répétitions. Donc là, on a fait une grosse réunion pour se mettre d'accord sur qui faisait quoi chacun, où on allait se mettre, enfin, chacun choisit. Faut que ça soit du plaisir pour tout le monde, hein. Donc voilà, donc comment mettre ça en place. Et puis, ben, on va répéter. Donc là, je suis en train d'essayer de voir tout le monde pour se donner un rendez-vous à peu près commun. C'est parce qu'il n'est pas évident en fonction des emplois du temps de chacun. Et puis, ça se fait dans un réel enthousiasme. On a de la chance, encore une fois, d'avoir vraiment des belles personnes autour de nous qui ne demandent que ça, de participer et de partager.
Voilà, donc rendez-vous le 20 janvier. Si vous n'avez rien à faire à Paris, vous pouvez venir à Mers-les-Bains. C'est une ville très agréable et on est très bien reçus. Merci Madame Gerlin.
Merci à vous.
Ainsi se termine notre série de deux émissions consacrées au peintre animalier Bernard Berkuis, qui vit et réalise ses œuvres dans son atelier d'Auvers-sur-Oise, et que je remercie pour son accueil particulièrement chaleureux. Je remercie également Madame Gerlin du service culturel de Mers-les-Bains, responsable de l'exposition consacrée à Monsieur Berkuis, expo qui s'est achevée le 7 janvier. Madame Gerlin, responsable également de la nuit de la lecture, qui a pour thème cette année le corps. Nuit de la lecture qui aura lieu à Mers, ville sœur du Tréport, le samedi 20 janvier. cours de l'émission d'aujourd'hui, nous avons écouté « À un chat », poème de José Luis Borges, des extraits de la chanson de Brigitte Fontaine intitulée tout simplement « Chat », extraits également du « Duo des chats » attribué à Rossini, mais aussi de chansons qui ont le même titre, « Le chat », de Claude Nougaro et de Frasiac, un extrait de la chanson des Siamois dans « La Belle et le Clochard » de Disney, et le début du conte de Marcel Aimé, « La patte du chat ». C'était Didier Delatte sur IDFM, à la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau rendez-vous compte. Des projets solidaires partagés, des créations originales qui autour de nous enrichissent notre présent, mais aussi des rencontres inattendues qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes. C'est ici et maintenant, rendez-vous compte.